Je vous propose ce matin d'ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5 et nous lirons du verset 18 jusqu'au verset 21. Éphésiens 5, versets 18 à 21. Et le titre de ce message est « Plein et rempli de l'Esprit ». Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. » Le prophète Joël l'avait annoncé, dans les derniers jours, le Seigneur répandrait de son esprit sur toute chair. Et cela s'est accompli au jour de Pentecôte. Et le Seigneur a renouvelé sa grâce il y a quelques décennies maintenant, avec une ampleur toute particulière qui nous amène à dire que nous sommes vraiment dans les derniers jours. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le monde entier, prêt à convaincre les hommes de péché, de justice, de jugement, prêt aussi à confirmer la parole prêchée, le témoignage des disciples par des œuvres de puissance et de grâce. Alléluia. Il agit dans le monde entier, il agit parmi nous, béni soit son nom. Mais le Seigneur nous a laissé encore des promesses plus grandes. Et il nous dit, par exemple, dans Jean 14, verset 17, que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, demeure avec vous et il sera en vous. Pas simplement répandu sur vous, mais habitant en nous. Et l'Épître aux Éphésiens, comme l'Épître aux Corinthiens, nous dit que nous sommes devenus des habitations de Dieu. En esprit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Église est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit vit en nous. C'est la nouvelle naissance. Celui qui croit au Fils reçoit la vie de l'Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit n'a pas Christ. Mais celui qui a Christ a aussi le Saint-Esprit. Mais nous savons aussi, et c'est la promesse du Seigneur, qu'il veut nous revêtir de sa puissance. Nous plonger dans toute la puissance du Saint-Esprit. Et ces deux dimensions, l'Esprit qui vit en nous et l'Esprit qui est sur nous, qui nous revêt, sont nécessaires. On dirait même de la première qu'elle est obligatoire. Être né de nouveau est obligatoire, nous en avons besoin, c'est lié au salut et à la vie. Si nous n'avons pas l'Esprit, nous sommes loin du Seigneur, mais si l'Esprit est en nous, nous lui appartenons. Quant à la seconde, le fait d'être revêtu du Saint-Esprit, ce n'est pas un bonus, ce n'est pas un plus, c'est une nécessité pour servir le Seigneur. Et elle est liée donc à notre témoignage. Et le Seigneur nous revêt de sa puissance. Alléluia. Et nous allons dire à partir de là que seule la connaissance et aussi l'expérience, la pratique de ces deux dimensions, l'Esprit en nous, l'Esprit sur nous, nous assure d'une pleine et entière communion avec le Saint-Esprit. Certes, l'une est obligatoire et l'autre est nécessaire, mais seule la connaissance des deux nous permet de connaître la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Cette double condition remplie, l'Esprit en nous, l'Esprit sur nous, alors nous découvrons deux concepts bibliques qui vont nous parler de cette communion avec le Saint-Esprit. C'est sur ça que je veux m'arrêter ce matin, parce qu'il y a parfois des confusions ou alors un manque de clarté. Et comme je le disais tout à l'heure, le titre de ce message est « Plein et rempli de l'Esprit ». Et nous allons voir que ce ne sont pas tout à fait les mêmes choses. La première chose, quand on parle de plein de l'Esprit, nous faisons référence là à une dynamique de vie, à une qualité de vie chrétienne accompagnée par le Saint-Esprit. Tandis lorsque nous parlons d'être rempli de l'Esprit, nous faisons la référence à une action spécifique, temporaire et initiée par le Saint-Esprit. Je vais développer cela. Tout d'abord, parlons de ce fait d'être plein de l'Esprit. Et je choisis cette expression « plein de l'Esprit » plutôt que « plénitude de l'Esprit » Parce que plein de l'esprit biblique, tandis que l'on ne trouve pas dans la Bible plénitude de l'esprit. Mais on trouve plein du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, la Bible nous recommande d'être plein du Saint-Esprit. Et le verset que nous avons lu dans Éphésiens 5, 18 devrait être mieux traduit ainsi, non pas « soyez au contraire remplis de l'Esprit », mais Paul dit exactement « soyez au contraire pleins du Saint-Esprit ». Et nous verrons qu'il faut faire la différence parce que la langue grecque fait la différence. Et ce n'est pas simplement jouer sur les mots, mais il y a une expérience derrière qui est différente. « Plein du Saint-Esprit », c'est le verbe « pléro » en grec, et nous devons être pleins donc de l'Esprit. Et quelques exemples. La plupart des exemples d'ailleurs que nous allons développer ce matin viennent de Luc. Que ce soit dans son évangile ou dans les actes des apôtres, on peut vraiment dire que Luc est le théologien du Saint-Esprit. Et lui nous parle le mieux de ce qu'est cette vie de l'Esprit, cette pratique du Saint-Esprit. Et si vous regardez dans Luc chapitre 4 verset 1, où il est question de notre Seigneur qui, revenant du Jourdain, vous savez, Marc nous dit, va être poussé par le Saint-Esprit dans le désert, mais Luc dit ceci, il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, mais là encore une fois, la traduction exacte, c'est Jésus plein du Saint-Esprit. C'est le même verbe, pléro, Jésus plein du Saint-Esprit. Dans Actes 6.3, au sujet de l'élection des diacres, vous connaissez le contexte, hein, les tensions dans l'église de Jérusalem, les apôtres vont exiger des disciples qu'ils choisissent des hommes connus pour être pleins de l'Esprit. Et là, nous avons le même verbe. Donc, autant être cohérent et partout utiliser la même expression « plein ». Et particulièrement, un d'entre eux retient notre attention, c'est Étienne. Que lisons-nous au sujet d'Étienne ? Si vos Bibles sont ouvertes, par exemple dans Actes 6, verset 5, nous voyons qu'il est dit de lui qu'il était un homme plein de foi et du Saint-Esprit. Plein de foi et du Saint-Esprit. Plus loin encore, verset 8, qu'il était aussi plein de grâce et de puissance. Merveilleux. Nous aimerions porter le même témoignage, n'est-ce pas ? Alléluia. Un peu plus loin, dans Actes 11, 24, au sujet de Barnabas, un peu la même expression. Barnabas était un homme plein de foi et du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voyons donc que Jésus, mais aussi de nombreux serviteurs du Seigneur, étaient des hommes plein du Saint-Esprit. Alors, la plupart du temps, nous avons le verbe « pléro » ou alors un adjectif, mais lorsque nous avons le verbe « pléro » qui nous parle d'être plein, nous le voyons toujours conjugué à la forme passive. C'est-à-dire que nous sommes pleins par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent actif. Nous, nous sommes en quelque sorte les récepteurs. Nous sommes les vases, mais c'est lui qui remplit. Mais ce qui est très intéressant dans la langue grecque, qui est très riche, c'est que les temps qui sont utilisés pour la conjugaison des verbes sont des temps que nous appelons continus et linéaires. Et si Luc, inspiré par le Saint-Esprit, utilise de tels temps de conjugaison, c'est pour nous dire que le fait d'être plein du Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience unique. Ce n'est pas un temps particulier que les chrétiens doivent s'efforcer d'atteindre ou un temps auquel ils se réfèrent. Et vous comprenez que je fais référence là à l'expérience de baptême du Saint-Esprit. Ah, c'est le moment où j'ai été plein du Saint-Esprit. Et pour certains, c'est un but à atteindre. Ils le désirent. Et pour d'autres, c'est parfois un lointain, très lointain souvenir. Seulement, ce n'est pas du tout ce que Luc veut nous dire. Parce qu'en utilisant ces conjugaisons avec des temps continus et linéaires, il veut nous dire qu'être plein du Saint-Esprit doit être une continuité et non pas une espèce d'accident, une grâce ponctuelle à un moment donné de notre vie. plein du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui doit demeurer, qui doit continuer et qui doit aller de progrès en progrès. Et nous ne devons pas nous satisfaire d'une vie chrétienne qui passe par des très hauts, qui généralement sont suivis par des très bas. Et je dirais, fuyez les très hauts, mais préférez la croissance continue et linéaire. Alors, être plein de l'Esprit ne doit pas être une exception, mais doit être une permanence. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'être plein du Saint-Esprit ? Cette question de la plénitude est bien sûr liée à la fois à la vie intérieure, notre marche avec le Seigneur par la foi dans la sainteté, mais liée aussi à ce revêtement de puissance que le Seigneur nous accorde par son Esprit. Le Saint-Esprit descend sur nous et il vient sur nous d'une manière parfaite et entière. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, comme nous le disons, c'est pas à moitié. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il vient pas en morceaux, il vient pas en partie, en portion, il vient en plénitude, il n'y a pas de demi-mesure de son côté, le croyez-vous ? Mais il peut y avoir par contre des différences au niveau de la manifestation de cette plénitude, et là ça nous concerne. Le Saint-Esprit nous plonge tout entier dans sa puissance, nous revêt de sa puissance, mais après, nous, que laissons-nous manifester de cette plénitude ? Et ce que nous laissons manifester de cette plénitude est lié à quoi ? À notre foi. Ce que nous acceptons, ce que nous permettons d'être exprimé. À notre sanctification. Parce qu'il est évident que l'iniquité, le péché, l'injustice sont autant d'altérations à la manifestation de cette plénitude de l'Esprit. Mais aussi notre communion. Et d'ailleurs, c'est bien sur cela que ce passage d'Éphésiens 5, versets 18 à 21 insiste, notre communion. Parce que cette présence pleine et entière du Saint-Esprit doit être non seulement entretenue, mais aussi développée. Encore une fois, ce n'est pas que nous allons recevoir plus du Saint-Esprit, mais c'est que nous allons laisser davantage la plénitude du Saint-Esprit se manifester dans notre vie. Et d'ailleurs, ça me permet de dire, et je sais que ce sont des raccourcis que nous faisons, que ce soit dans les chants, dans nos prières, parfois dans les prédications, mais un raccourci qui pourtant n'est pas vrai, lorsque nous disons « plus de toi, Seigneur ». Mais laissez-moi vous dire que nous n'avons pas besoin de dire « plus de toi, Seigneur », puisque le Saint-Esprit est venu entier sur nous. Mais c'est tellement plus facile de dire « Seigneur, plus de toi », plutôt que de dire « Seigneur, je dois te laisser davantage dans ma vie ». Autrement dit, toi fais quelque chose, quand le Seigneur nous dit « mais je t'ai tout donné ». Et à toi de laisser ces choses se manifester. Là est notre responsabilité. Comment allons-nous donc laisser cette plénitude grandir en nous ? Eh bien, les versets qui suivent, versets 19 à 21, pour être bien traduits encore une fois, tous les verbes sont des participes présents, s'entretenant par des psaumes, chantant, célébrant, rendant grâce à Dieu, se soumettant les uns aux autres, sont des participes présents. Qu'est-ce que ça veut dire des participes présents ? Eh bien, c'est qu'ils sont tous liés au verbe principal qui a été conjugué avant, c'est-à-dire « soyez pleins de l'Esprit ». Comment allez-vous être pleins de l'Esprit ? En vous entretenant, en chantant, en célébrant, en rendant grâce à Dieu. Tous ces verbes sont descriptifs et expliquent ce verbe « plein de l'Esprit ». Et ça, donc, ce n'est pas quelque chose que nous faisons de temps en temps. Mais je dirais, comme l'apôtre Pierre l'écrivait, c'est quelque chose que nous, sur lequel nous vaquons à la prière. Nous vaquons à cette communion en permanence, chantant, louant les louants, la gloire du Seigneur. Que ce soit chez nous, que ce soit dans le métro ou même à notre lieu de travail. Quelques paroles qui montent vers le Seigneur qui sont dans notre cœur. Et tout cela contribue à développer la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia ! Et donc, être plein du Saint-Esprit nécessite une permanente et durable influence du Saint-Esprit dans notre vie. Mais voilà ce que le Seigneur désire pour nous. Quels en sont alors maintenant les résultats ? Nous allons nous retourner vers Étienne. Nous aimerions ressembler à Étienne. Son témoignage est court. Sa prédication fut courte, et nous savons comme tout cela s'est fini. Mais quel homme de Dieu, malgré tout. Qu'est-il dit d'Étienne ? Regardez tout d'abord ces versets 8 et 15 d'acte 6, et nous voyons d'abord ce qui s'est produit en Étienne. Parce qu'avant de regarder ce qu'Étienne a accompli par le Saint-Esprit, il est d'abord intéressant de regarder ce que le Saint-Esprit a accompli en Étienne. Parce que c'est ce qui intéresse Dieu d'abord. Et nous disions tout à l'heure qu'Étienne était un homme plein de grâce. Plein de grâce. Il y avait vraiment la présence du Seigneur dans sa vie. Une présence, une grâce de sainteté, de vérité, de pureté. Un homme sans parole déplacée. Un homme qui marche dans la vérité. Un homme qui n'a que pour désir d'édifier, de bénir son prochain, son frère, sa sœur, son ami. Un homme plein de grâce. Voilà vraiment un résultat tangible de la pleine action du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Et puis regardez au verset 15. Alors que les accusateurs témoignent faussement contre lui, ceux qui le regardent alors peuvent dire de lui cette expression que son visage leur parut comme celui d'un ange. Et chaque fois je pense à ce texte, je me rappelle aussi de Moïse. Le lien s'établit entre ces deux hommes. Rappelez-vous Moïse qui, lorsqu'il sortait de la présence de Dieu, devait mettre un voile sur son visage parce qu'il y avait une lumière réelle, physique, qui émanait de Moïse. Je ne pense pas qu'il y avait une lumière qui émanait d'Étienne, mais il y avait une telle présence. Peut-être un sourire. Une pureté. Le fruit de l'esprit dans la vie d'Étienne était manifeste et visible aux yeux de tous ceux qui l'entouraient, même de ses accusateurs. Être plein de l'esprit, avant même parler d'œuvre de puissance, c'est de parler du fruit de l'esprit dans notre vie. Gloire à Dieu. Mais on ne peut pas oublier aussi la puissance du témoignage et du service, donc la plénitude du Saint-Esprit mise en action par Étienne, de deux manières, dans la sagesse et dans la puissance. Au verset 8, il est dit que Étienne accomplissait des prodiges et des grands miracles. Et alors nous nous posons la question, mais quels étaient donc ces grands miracles ? Miracle est déjà tellement merveilleux, grands miracles, lesquels pouvaient-ils être ? Le Seigneur n'avait-il pas dit que par son esprit, nous ferions des œuvres plus grandes que les siennes ? Et n'était-ce pas ce qu'Étienne était en train d'accomplir dans les jours où il vivait ? Et en même temps, une sagesse qui rappelle celle de Jésus, lorsqu'il est dit au verset 10 que ceux qui l'accusaient ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et ça me rappelle lorsque Jésus était au temple, que les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, vous savez toutes les histoires, ils sont venus lui chercher des poux dans la tête, mais... Et par sa sagesse, ils se taisaient tous, ils ne savaient plus quoi dire. Et avec Étienne, c'est la même chose, mais de toute façon, n'est-ce pas le même esprit qui était en Jésus et qui était aussi en Étienne ? Alléluia ! Voilà donc un homme plein du Saint-Esprit. Maintenant, je voudrais aller sur cette deuxième expression dont je vous parlais tout à l'heure, rempli de la puissance de l'Esprit. Alors, là, pour le verbe remplir, justement, nous avons un autre verbe grec. Et Luc est très cohérent. Quand il veut parler d'être plein, il utilise le verbe pléro. Et quand il veut parler d'être rempli du Saint-Esprit, il utilise un autre verbe, le verbe pléton, parce que les deux choses sont très différentes pour lui. Alors, essayons de les comprendre. Quand il utilise le verbe pléton pour parler d'être rempli du Saint-Esprit, Luc va nous décrire des situations très particulières, notamment dans son évangile, dans l'évangile de Luc, dans ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance, c'est-à-dire l'enfance de Jésus, les premiers chapitres. Nous avons par exemple dans Luc 1,15 cette référence à Zacharie, où il est dit que l'ange dit à Zacharie que son fils sera rempli de l'Esprit-Saint. Dès la naissance, le verbe « rempli ». Luc 1, 41. Au jour où Marie, enceinte, est allée visiter Élisabeth, il est écrit qu'Élisabeth fut remplie de l'Esprit à l'arrivée de Marie. Luc 1, 67. Zacharie a été rempli de l'Esprit Saint le jour de la circoncision de Jean-Baptiste. Et vous savez qu'il a commencé à prophétiser sur Jean et sur le Sauveur qui devait venir. Dans les Actes des Apôtres, Actes 2, 4, au jour de Pentecôte, il est écrit que tous ont été remplis de l'Esprit Saint et ils parlèrent dans d'autres langues. Dans Actes 4, 8, lorsque Pierre va prêcher devant les chefs du peuple, il est écrit que Pierre, rempli de l'Esprit Saint, s'adressa aux chefs du peuple. Dans Actes 4, 31, alors que tous les disciples sont réunis dans la chambre haute et qu'ils prient, il est écrit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Actes 9, 17, Ananas a été envoyé vers Saul pour qu'il soit rempli de l'Esprit. Actes 13, 9, Paul, rempli du Saint-Esprit, va confronter Élimas. Vous savez, cette espèce de sorcier magicien qui voulait empêcher le consul, gouverneur, je ne sais plus, Sergius Paulus, de croire en Jésus. Et là, par une parole puissante, nous savons que Élimas va devenir aveugle. Et dans tous ces cas, il est donc question du verbe remplir, l'expression rempli du Saint-Esprit. Et là, nous avons non seulement un verbe différent, mais nous avons aussi une forme de conjugaison différente. Parce que le temps employé par Luc n'est donc pas un temps de conjugaison continue et linéaire, mais c'est un temps qui est utilisé pour décrire un événement ponctuel. Quelque chose qui intervient à un moment précis, à un moment donné. Et donc, non pas une constante ou une condition de vie. Donc, à certains moments, les hommes, les femmes dont nous venons de parler ont été remplis du Saint-Esprit. Et le résultat de cette action, d'être remplis du Saint-Esprit, les a amenés dans toutes les circonstances à une proclamation audacieuse, puissante et efficace de la parole de Dieu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ils ont été poussés par le Saint-Esprit, inspirés par le Saint-Esprit pour proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Donc dans des occasions particulières, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ce fait d'être rempli du Saint-Esprit peut se renouveler donc régulièrement, à différentes occasions, surtout lorsqu'on a le désir de servir le Seigneur. Tout à l'heure, nous avons dit qu'au jour de Pentecôte, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, dans Actes 2, verset 4. Mais plus tard, lorsque Pierre va prêcher devant les anciens des Juifs, une nouvelle fois, il est rempli du Saint-Esprit. Parce que le moment le demandait, et le Seigneur lui a accordé. Alors, qu'est-ce que nous voyons d'après les exemples bibliques qui illustrent ces temps où on est rempli du Saint-Esprit? Eh bien, tout d'abord, il est question de visitation particulière du Saint-Esprit. Élisabeth a été visitée par le Saint-Esprit. Et au jour de Pentecôte, les disciples ont été visités par le Saint-Esprit. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous avez connu ces moments à l'église, dans des groupes de maison, dans des retraites spirituelles, dans des camps, où vous avez été visité par le Saint-Esprit. Et alors, on a été comme rempli de l'Esprit. Nous avons notre vie régulière avec le Saint-Esprit, mais il y a des moments particuliers où le Saint-Esprit nous remplit. Et alors, des choses magnifiques se produisent. D'autres moments où des hommes, des femmes sont remplis de l'Esprit, c'est dans le témoignage et surtout dans la prédication de la parole. Bien sûr, le prédicateur est appelé à vivre pleinement par le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il va prêcher la parole, ce qu'il désire, c'est comme l'apôtre Pierre, être rempli du Saint-Esprit au moment où il va ouvrir la bouche. Il a travaillé son message, il s'est préparé devant le Seigneur. Mais avant de se présenter devant les frères et sœurs ou devant le public, il demande encore au Seigneur, Saint-Esprit, remplis-moi Remplis-moi de toi. Donne-moi cette force et cette puissance. Et puis nous trouvons un dernier type d'exemple, de catégorie où des hommes, des femmes sont remplis du Saint-Esprit. C'est dans l'expression des charismes, des dons spirituels. Zacharie a prophétisé sur Jean-Baptiste ayant été rempli du Saint-Esprit. Paul a exercé un charisme de puissance face à Élimas une fois qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Eh bien, mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un prophétise dans l'Église, ou même lorsqu'il reçoit une parole de connaissance, de sagesse dans ce monde, il est rempli de l'Esprit. À ce moment-là, il est rempli de l'Esprit. L'Esprit Saint descend sur lui d'une manière particulière. Et il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, dans son cœur. Il y a un bouillonnement qui est là. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. Alors le fait donc d'être rempli du Saint-Esprit n'est pas réservé à certains hommes particuliers, mais n'est réellement accordé que dans certaines circonstances, dans certaines conditions. Et puis aussi elle est accordée, ou plutôt, excusez-moi, elle est manifestée en des degrés différents. Nous sommes remplis de l'Esprit, mais nous le manifestons d'une manière différente. Et ça, c'est lié à la foi, bien sûr. C'est aussi lié à la puissance du ministère, ou au don, à la puissance du don que la personne a reçu. Et il y a là aussi des différences dans le degré de la manifestation de cet état d'être rempli de l'Esprit. Mais par contre, c'est certain que nous devons tous chercher, tant dans notre vie personnelle, dans notre service et surtout dans l'Église, à être remplis du Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, voilà comment nous devrions nous préparer lorsque nous venons à un culte. Non seulement être plein de l'Esprit, et ça c'est quelque chose qui se vit au quotidien, mais lorsque nous venons à un culte pour servir le Seigneur, lorsque nous venons dans l'Église pour servir le Seigneur, lorsque nous allons dans ce monde pour servir le Seigneur, et même dans une idée presque quotidienne de dire « Seigneur, remplis-moi aujourd'hui de ton Esprit pour quelque chose de particulier ». Et si nous avions tous ce désir de monter à la maison du Seigneur pour célébrer le culte avec cette aspiration à être rempli du Saint-Esprit, nos cultes seraient différents. Ils prendraient une autre dimension encore. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi parce que je désire proclamer ta parole avec puissance. Et le Seigneur a cela en réserve pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, pour conclure, je dirais que nous sommes appelés à une vie de plénitude dans la soumission du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut pour nous une vie pleine et entière. Il nous a tout donné. Nous n'avons pas reçu un morceau, une part du Saint-Esprit. Et il attend de chacun d'entre nous que nous laissions cet état de plénitude se manifester à travers nos vies d'une manière continue, durable, progressive. Mais en même temps, nous sommes appelés les uns les autres à rechercher ces moments où nous allons être remplis du Saint-Esprit. C'est indépendant de notre volonté. Nous ne pouvons pas déclencher les choses, mais nous sommes appelés à les rechercher par contre. Et nous savons que ponctuellement, dans des temps spécifiques, nous serons remplis du Saint-Esprit afin de proclamer avec force la parole du Seigneur. Alléluia! Pour finir, je voudrais vous donner quelques exemples personnels pour illustrer encore plus les choses. Que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mon service, et ce que je dis là, plusieurs pourront l'appliquer pour eux-mêmes. J'ai connu des temps de visitation de l'Esprit. Je me souviens très bien du jour où je vous ai déjà raconté l'histoire avec tant de jeunes garçons, jeunes filles de 13-14 ans, un soir, dans une colonie, l'Esprit du Seigneur est tombé sur nous. Et en l'espace de quelques secondes, une puissance s'est manifestée. Et je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines de gamins étaient là, remplis du Saint-Esprit, louant le Seigneur. Ce jour-là, non seulement nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit, mais nous avons aussi été remplis de l'Esprit. Quel moment de grâce! Et beaucoup d'entre nous pouvons dire oui, nous avons connu de tels moments. Que ce soit le jour de notre baptême ou dans des temps de renouvellement, nous les aimons ces moments. Mais combien il est bon aussi, tout simplement, de continuer dans cette vie de l'Esprit, dans la prière. Il y a des moments où on a l'impression, mais Seigneur, je n'ai pas atteint de sommet aujourd'hui. Mais Dieu nous dit, tu fais ton chemin, tu avances, tu progresses. Et Seigneur, même si je ne ressens pas ces sommets, ton esprit est pleinement en moi. L'esprit du Seigneur est pleinement en nous, pleinement sur nous. Même lorsque nous n'avons pas de frissons ou autre, il est là. Et si nous cherchons ce moment de communion, de plénitude, il arrive toujours, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, le moment où dans nos temps de prière, le Seigneur va venir nous remplir. Alléluia. Et ça, c'est les moments que nous aimons. Je pourrais aussi vous parler des premières fois où il m'est arrivé d'exercer les dons spirituels. Et pendant long moment, 2-3 mois, je me suis dit, Seigneur, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose dans ma vie. J'avais 10 ans de conversion, j'avais 27-28 ans. Et j'ai dit, Seigneur, je veux commencer à exercer les dons spirituels. Et pendant 2-3 mois, j'ai prié pour cela, j'ai pris le temps de jeûner pour cela. Et un jour, un matin, à un culte, il y a la puissance de l'Esprit qui est descendue sur moi. Dans ces temps, j'étais déjà plein du Saint-Esprit. Mais l'Esprit m'a rempli. Avec une force nouvelle. Et ce jour-là, j'ai pu, après qu'un don était donné en langue, l'interpréter avec cette puissance, cette autorité, étant rempli du Saint-Esprit. Chaque fois qu'il m'est donné de prêcher la parole, il y a bien sûr tout le temps de préparation dans la parole de Dieu, dans l'étude, le temps de préparation dans la prière. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est le samedi soir, me mettre à part dans ma chambre et là de dire, Seigneur, tu vois, tout est prêt maintenant. Mais ce dont j'ai besoin, c'est que tu me remplisses de ton esprit pour proclamer cette parole. Et bien sûr, il m'est arrivé de connaître à différents degrés cet état de... Depuis la semaine dernière, j'ai toujours pas trouvé le mot, si je dois dire remplissage, remplissement, je sais pas. Je crois qu'il n'y a pas de mot qui existe. Hein. Faudrait qu'on en invente un. Mais j'ai connu ça à différents degrés. Et il y a des moments où vous avez l'impression d'être pas rempli du Saint-Esprit, et puis vous vous rendez compte que la parole que vous avez amenée est malgré tout efficace parce que vous êtes quand même plein du Saint-Esprit. Et il y a bien sûr des moments où il m'est arrivé de connaître la puissance de l'Esprit tellement forte que j'avais l'impression de m'enfoncer dans mon fauteuil. Je dis ça parce que je me rappelle un moment particulier où nous étions assis sur des fauteuils dans un congrès de jeunesse. Et Seigneur m'a dit, maintenant tu vas prêcher ça. Et ce jour-là, j'ai prêché sur Jésus et Barabbas. Et pendant tout le message, une puissance qui était là, une puissance qui m'écrasait. Vous savez, le kabot, en hébreu, qui parle de la gloire de Dieu, Dieu dit aussi que c'est quelque chose de pesant, de lourd. Et quand on est rempli de l'esprit comme ça, c'est très pesant, c'est très lourd. Mais quand vous laissez les choses s'exprimer, la puissance se manifeste et à la fin de cette prédication, il y avait encore la puissance de Dieu qui m'a saisi pour prophétiser d'une manière extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose que nous devons chercher. Mes frères et sœurs, vous êtes vous qui avez goûté à la vie nouvelle et qui avez été plongé dans le Saint-Esprit. Vous connaissez la plénitude du Saint-Esprit. Mais Dieu vous appelle à être rempli. Mon frère, ma sœur, toi qui... Ah, l'Esprit de Christ en toi. Tu n'es pas plus petit. Mais le Seigneur voudrait t'amener encore à découvrir quelque chose de plus grand. Parce que la promesse de l'Esprit est aussi pour toi. Elle est pour chacun d'entre nous. Gloire à notre Seigneur. Être plein et être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je me permets simplement de finir en disant, vous savez, on parle beaucoup de l'onction, c'est très à la mode, mais finalement quand on regarde au mot onction, mes frères et sœurs, vous le savez bien, le mot onction dans le Nouveau Testament, on le rencontre que dans la première épître de Jean. Nous avons tous l'onction, nous avons tous la connaissance. Et alors on essaye de nous expliquer, ben l'onction c'est ceci, c'est cela. Et je me dis que des fois on fait tellement de bouquins et tellement de messages pour essayer de nous expliquer quelque chose, parce que finalement on n'arrive pas à bien comprendre ce que c'est. Eh bien, savez-vous finalement ce que c'est que l'onction ? Ben, c'est être rempli du Saint-Esprit. C'est ces moments où le Saint-Esprit descend sur nous. on est plein d'esprit, hein, mais il y a des moments où, vous voyez, ouh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est dans le livre du prophète Ézéchiel, il y a des moments où il y a la main de Dieu qui vient sur Ézéchiel, là, qui l'arrache par les cheveux. Et c'est presque ça qu'on reçoit. Bon, il y a des moments c'est moins fort, il y a des moments c'est très fort. Mais ni plus ni moins, c'est ça. C'est être rempli du Saint-Esprit. Et bien finalement, je vous dis, moi, je comprends mieux l'expression « rempli de l'Esprit ». Et surtout quand on essaie de voir les deux choses. Et j'espère que ce matin, ça vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est cette différence entre plein du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. On va finir par un dernier chant. On va rendre gloire ainsi à notre Seigneur. Oh oui, mon Dieu, qu'il est bon d'être rempli du Saint-Esprit tous ensemble. Et je te prie, Jésus, de nous donner de persévérer dans tout ce que tu nous as donné. Tu nous as donné ton esprit, non pas une portion, non pas une demi-mesure, mais tu nous as donné la plénitude de ton esprit. Jean disait de toi, Seigneur, que tu n'as pas reçu l'esprit avec mesure. Et toi-même, tu ne nous as pas donné l'esprit avec mesure. Mais tout le Saint-Esprit vit en nous. Il habite tout entier en nous. Et ma prière, Seigneur, c'est que nous laissions le Saint-Esprit se manifester pleinement en nous par une vie de communion, par une vie, Seigneur, de foi, de sanctification pour que tu sois glorifié. Et comme Jean le disait, mais c'est notre prière que nous diminuons et que toi, tu croisses. Et puis Seigneur, oh, avec mes frères et sœurs, je veux te dire merci pour toutes les fois où tu nous as remplis du Saint-Esprit, où tu nous as donné, Seigneur, cette puissance qui est venue sur nous pour proclamer avec audace ta parole. Et Seigneur, c'est tellement bon, ces moments où nous sommes visités par ton esprit. C'est tellement bon, Seigneur, ces moments où nous ouvrons la bouche pour proclamer ta parole, que ce soit dans le témoignage, que ce soit pour apporter une parole d'édification dans l'Église. Seigneur, encore remplis-nous et nous recherchons toujours. Parce que nous savons, comme il est écrit, que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors nous avons de l'assurance pour proclamer ta parole. Seigneur, fais de nous des Étienne. C'est notre prière, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.